On va ensemble ouvrir la parole de Dieu. C'est toujours pour nous important. On a entendu tout à l'heure l'importance de louer le Seigneur. C'est important de louer le Seigneur. C'est écrit dans la parole de louer le Seigneur, l'importance d'élever son nom pour le célébrer, l'importance de le prier, l'importance de méditer la parole de Dieu. Et j'avais annoncé que nous commencerions une étude sur l'évangélisation. Et je pensais initialement commencer aujourd'hui, mais en milieu semaine, plus exactement mercredi, est venue dans mon cœur la pensée de compléter le sujet que j'ai abordé depuis début janvier avec vous sur la liberté et la délivrance. Donc on commencera le sujet sur l'évangélisation dimanche prochain, le 31 janvier. Et en réfléchissant, je me suis dit qu'en fin de compte, ce dernier point sur la liberté, la délivrance, va être un sujet, un bon sujet de transition, et vous comprendrez pourquoi, pour l'évangélisation. On va lire deux textes, mais pas en suivant. Il y a deux expressions dans la parole de Dieu, dans les paroles de Jésus, dont on fait référence parfois et qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu, qu'on va lire. Et on va s'arrêter sur cette expression ce matin qu'on retrouve à deux reprises dans la parole de Dieu. Tout d'abord, dans Matthieu au chapitre 16, verset 13, Matthieu chapitre 16, et à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Vous avez compris sur quel verset nous allons mettre le focus ce matin, c'est sur le verset 19 que je vais relire. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Cette expression de Jésus, nous la retrouvons dans un autre passage que nous lirons tout à l'heure. Et ici, le Seigneur Jésus s'adresse à Pierre. Pierre qui va être un précurseur, un pionnier, avec son tempérament de fonceur, j'allais dire aussi de meneur d'homme. Cet homme, quand on étudie le parcours de Pierre, on comprend les paroles que le Seigneur Jésus lui a adressées. Parfois, nous entendons certaines prières du style « Seigneur, nous lions les ténèbres ou nous délions telle ou telle chose ou nous délions telle ou telle personne. » En référence à ce verset qu'on trouve là, et aussi par rapport au second que nous lirons tout à l'heure. Alors, j'aimerais de suite, avant d'aller plus loin sur ce sujet, lever quelques malentendus et quelques incompréhensions par rapport à ce que Jésus dira quand il dit « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux ». On fait parfois référence aux démons, mais dans ce texte, est-il question de démons? Je pose la question. Non. Vous pouvez relire et lire et lire et relire. Il n'en est pas du tout question. Et vous verrez que dans le second texte que nous lirons tout à l'heure, il n'en est pas question non plus. Comprenez bien que lorsqu'on fait référence à ce verset pour lier les puissances des ténèbres ou délier, on se trompe. Bien sûr, et nous l'avons vu la semaine dernière, le Seigneur délivre ceux qui sont possédés. Que son nom soit glorifié. Alléluia. C'est une réalité. Et il nous faut prier pour cela. Et nous avons parlé la semaine dernière, en l'occurrence, de l'importance de l'autorité de la parole de Dieu en la matière et l'importance de la prière. Mais ici, c'est pas le contexte dans lequel le Seigneur adresse ce verset. Il dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Il vient de parler de l'Église. Et il vient de lui dire, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Lorsque nous avons une clé, cela peut permettre d'ouvrir une porte, d'ouvrir un lieu qui est fermé, ou à l'inverse, de fermer un lieu qui est ouvert. C'est pour cela qu'il est dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et on voit l'interaction qu'il peut y avoir par rapport à ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe dans les cieux, et vice-versa. Et vice-versa. Mais l'initiative revient quand même au Seigneur. L'initiative ne revient pas à Pierre qui ouvrira, qui fermera, qui lira ou qui délira. Ça ne revient pas à Pierre. L'initiative revient au Seigneur puisqu'il dit « Je te donnerai ». C'est donc le Seigneur qui donne les clés. C'est le Seigneur qui donne les clés pour permettre d'ouvrir, de fermer, pour permettre de lier ou de délier. C'est le Seigneur qui a cette autorité et il la délègue à son Église puisqu'il parle de l'Église. Et bien sûr à Pierre, mais pas seulement à Pierre, puisque l'on voit, si l'on étudie les autres apôtres et même certains disciples, qu'ils ont été des ouvreurs, qu'ils ont été en la matière des personnes qui ont donné de nouvelles perspectives à l'Église, qui jusqu'alors étaient comme coincées, comme bloquées. Donc une clé peut permettre d'ouvrir et de fermer, et il y a des situations, il y a des lieux peut-être qui sont bloqués parce qu'il nous faut cette clé, mais je crois que nous l'avons déjà la clé. Le Seigneur donne la clé, il donne les clés du royaume des cieux à son Église. Mais la clé, on s'en sert peut-être pas, ou on n'ose pas s'en servir, ou peut-être qu'on l'a perdue, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne sait pas qu'on l'a aussi. Mais nous l'avons. Cette expression « lier et délier » est une expression rabbinique, c'est-à-dire que les rabbins utilisaient pour interdire ou permettre certaines choses au peuple. Vous savez qu'il y a dans la loi de Moïse tout un tas de permissions et tout un tas d'interdictions. En plus de cette loi de Moïse, dans le cours de l'histoire d'Israël, ils ont rajouté d'autres ordonnances humaines qui régissaient toute la vie du peuple et des individus pour leur permettre ou leur interdire eh bien certaines choses. Et lorsque Jésus emploie cette expression, bien sûr, ça y fait référence, c'est-à-dire que avec la nouvelle alliance, il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvre pour le peuple de Dieu, et nous sommes désormais, nous, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous le dit et nous l'avons chanté. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, notre Père. À lui soit la gloire. Il y avait donc des choses interdites dans l'Ancien Testament ou permises qu'ils ne le sont plus aujourd'hui avec la Nouvelle Alliance. Et ces choses qui étaient soit permises, soit interdites dans l'Ancienne Alliance, bloquent le service de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Et je vais y venir, Et nous avons besoin, et là, Pierre et les premiers chrétiens, et je rappelle quand même que les premiers chrétiens étaient juifs, ça après rapidement atteint les nations, mais les tout premiers chrétiens étaient juifs. Donc, ils étaient emprunts de ces interdictions et de ces permissions de l'Ancien Testament. Ça faisait des générations, des centaines d'années qu'ils étaient instruits dans ces lois, dans ces commandements, qui étaient pour le moins gênants, mais surtout bloquants pour le service de Dieu, dans la Nouvelle Alliance. Nous bénissons le Seigneur parce que lui nous a laissé un exemple. Alors, il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et quand on étudie le parcours de Pierre de près, on comprend ce que le Seigneur a pu vouloir dire. Et on va s'arrêter sur un des événements ou une ouverture que Pierre a faite, mais cette ouverture s'est d'abord faite dans son cœur. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. Le Seigneur lui a donné une clé, ça a ouvert quelque chose dans son cœur, et cette chose dans son cœur qui s'est ouverte a eu une répercussion pour tout le royaume des cieux, et on comprend pourquoi il est dit « Ce que sera lié sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Mais il fallait d'abord que le cœur de Pierre puisse s'ouvrir. Je prendrai un événement dans les Actes des Apôtres que nous trouvons dans Actes, chapitre 10. Il nous faudrait lire tout le chapitre 10 des Actes des Apôtres jusqu'au verset 20 du chapitre 11. Donc, on aurait pratiquement deux chapitres à lire, mais ce matin, on ne va pas lire ces deux chapitres, ça serait fort intéressant, mais je vais juste lire quelques versets. Le verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Alors c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce chapitre 10 des Actes des Apôtres, qui vient faire écho à ce que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu. Rappelons-nous que le Seigneur avait dit à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. Déjà, eux, comment ont-ils reçu cela dans leur cœur? C'était la volonté du Seigneur d'évangéliser toutes les nations. Sauf qu'il y a un problème de taille. Et comme je le disais tout à l'heure, il y avait des interdictions dans l'Ancien Testament qui bloquaient le service de Dieu pour la Nouvelle Alliance. Or, dans cette nouvelle alliance, il y a un commandement. Un commandement, c'est celui de répandre la bonne nouvelle à toutes les nations. Oui, sauf qu'il y a un problème de taille. Ce sont des Juifs. Et il leur est interdit de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Or, quand on lit le début des Actes des Apôtres, c'est tout à fait remarquable. Corneille a une visitation et donc il envoie chercher Pierre, sauf que Pierre, entre-temps, le Seigneur va préparer le cœur de Pierre. Il va lui donner une clé à ce moment-là. Il est en train de lui donner une clé. Et c'est à ce moment-là que Pierre a cette vision de la nappe à trois reprises, où il y a tous ces animaux, purs et impurs, et les purs, il leur était permis de manger, les impurs, il y était interdit de manger. Et le Seigneur va dire quelque chose qui, pour un juif, est totalement inconcevable, inadmissible, c'est de manger de la viande impure. Imaginons-nous à la place de Pierre. Et depuis tout petit, il a été instruit là-dedans. Il n'a jamais rien mangé d'impur. Le Seigneur est en train de lui apprendre quelque chose. Il est en train d'ouvrir son cœur avec une clé, là. Au départ, Pierre ne refuse. Jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Il refuse. Mais le Seigneur est en train de lui apprendre et lui dira, au chapitre 10, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Il est en train de lui changer sa façon de voir les choses, parce que jusqu'ici, il n'est pas entré dans la volonté de Dieu. Pourtant, il la connaissait, cette volonté de Dieu. Comme quoi, vous savez, on peut connaître la volonté de Dieu, mais il y a des choses qui nous empêchent d'accomplir la volonté de Dieu. Or, il la connaissait, Pierre. C'était la volonté de Dieu, c'était d'être ses témoins dans toutes les nations. Sauf qu'il ne pouvait pas accomplir cette volonté à cause de ses restrictions, à cause de ce blocage. Il y avait quelque chose qui était lié dans son cœur, qui ne pouvait pas. Pourtant, le Seigneur leur avait non seulement donné son commandement, mais en plus, déjà lorsqu'il était avec eux, ils ont passé quand même 3 ans avec Jésus, Jésus déjà a été vers des non-juifs quand on lit les évangiles. Il a été vers la femme samaritaine, il a été vers l'officier romain, il a été vers cette femme grecque syrophénicienne. On voit que Jésus a côtoyé des personnes qui, pour un juif, étaient interdits de côtoyer. Avant Pierre, est-ce que d'autres ont été vers des non-juifs? Il y en a au moins un, Philippe l'évangéliste, qui a été à Samarie, qui a été aussi vers l'eunuque éthiopien. Donc, il a été un précurseur, mais il n'avait pas, j'allais dire, l'influence et l'importance que pouvait avoir l'apôtre Pierre. À partir de ce moment-là, il y a une nouvelle possibilité qui s'est ouverte pour tout le royaume des cieux. Alléluia. On voit bien que ce qui se passe dans nos cœurs, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, dans le royaume des cieux. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Sinon, Pierre, jamais Pierre ne serait entré chez Corneille, jamais il aurait entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est difficile à savoir si c'était vraiment des préjugés raciaux, peut-être. Mais en tout cas, on voit qu'avec certains préjugés, avec certains stéréotypes, on est lié et on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Aussi, nous faut-il une délivrance dans notre façon de voir, une délivrance dans notre mentalité, une délivrance dans les choses que peut-être nous avons apprises depuis tout petit et qui sont si fortes en nous. Et puis, on voit que le salut est entré chez Corneille, sur tous les siens, sur tous ceux qu'il avait réunis là. Il avait invité sa famille et puis aussi des amis intimes, des amis proches. Et tous se sont donnés au Seigneur. Le Saint-Esprit s'est descendu sur eux et ils ont même été étonnés de ce que le Saint-Esprit était répandu sur des païens. Alléluia! Donc on y voit là l'approbation divine, le Saint-Esprit qui descend sur eux. Voilà. Et peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme à nous? Donc après cela, ils les ont baptisés. On pourrait penser que ça y est, c'est gagné. Sauf que quand on lit le chapitre 11, vous pourrez le lire, certains ont fait des reproches à Pierre. Ils ont fait des reproches à Pierre. Au verset 3, il dit, mais tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Ils n'avaient pas encore, leur cœur à eux était encore fermé. Leur cœur à eux était encore fermé. Il va falloir que Pierre s'en explique ce qui s'est passé, comment le Seigneur s'y est pris. Et au verset 18, suite à l'explication de Pierre, ils disent, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Et à partir de cela, l'évangélisation des nations va commencer et va prendre une ampleur phénoménale, non pas avec Pierre, même si Pierre sera un précurseur, mais avec l'apôtre Paul. Mais il fallait déjà que la porte s'ouvre. Et si cette porte s'est ouverte, il était important qu'elle soit d'abord ouverte dans le cœur. Et vous savez, il y a tellement de choses qui, encore aujourd'hui, nous empêchent d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que je disais que quelque part, ce sujet, ce dernier point sur la délivrance et la liberté, eh bien, va faire une bonne transition avec l'évangélisation. Parce que si parfois on a du mal, c'est parce que nous sommes empreints d'une façon de voir les choses, une façon de penser, une façon notre propre culture aussi peut nous empêcher de servir le Seigneur pleinement dans ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Et nous pouvons avoir des blocages et n'oublions pas que le Seigneur nous a donné des clés. Alléluia. Et nous voulons ouvrir ces portes, s'il faut peut-être en fermer d'autres, mais en tout cas, le Seigneur est tout-puissant pour nous aider les uns les autres à rentrer pleinement dans sa volonté de Dieu, alors que son nom soit glorifié. Dans Acte 13, au verset 3, il dit « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Ici, nous ne sommes plus avec Paul et avec Pierre, excusez-moi, nous sommes maintenant avec Paul et Barnabas. Paul et Barnabas sont dans l'église d'Antioche, on voit ça au verset 1er, avec d'autres serviteurs de Dieu, il y a là des prophètes, des docteurs, dont il est dit, il est cité les noms, et ils sont en train donc de prier, de jeûner même, et à ce moment-là, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Paul a déjà reçu depuis quelques années, de la part de Dieu dans son cœur, qu'il serait ses témoins, son témoin, dans jusqu'aux extrémités. Il avait reçu ça dans son cœur, mais il était encore là, à l'église d'Antioche. Seigneur, par le Saint-Esprit, donc, révèle à toutes ces personnes qui sont réunies que c'est le temps pour Paul et Barnabas, donc, qui étaient encore appelés Saul à ce moment-là, de partir. Donc, il leur impose les mains et ils nous ont dit, ils les laissèrent partir. Ah, j'aime bien cette expression. Hein. Ils les laissèrent partir. Maintenant, vous êtes libres. Comprenez ? Et parfois, c'est vrai qu'on peut retenir des personnes qui sont bloquées, qui n'ont plus cette liberté ou qui n'ont pas cette liberté de servir le Seigneur dans l'appel qu'ils ont reçu parce que on les retient pour différentes raisons. Ils auraient pu dire, par exemple, oh, on a besoin de Paul et Barnabas, ici l'église d'Antioche, elle est grandie vite, et on a besoin de la prédication encourageante de Barnabas, on a besoin des enseignements de Paul, on a besoin d'eux, on les retient. Mais non. S'ils avaient fait ça, c'est vrai que de nouvelles perspectives n'auraient pas pu se faire, ou en tout cas pas avec eux, pour les différents pays qui composaient l'Empire romain de l'époque. Et on voit que des âmes se sont converties au Seigneur, des églises ont été implantées parce qu'à un moment donné, ils ont accepté de laisser partir ceux qui étaient appelés à servir le Seigneur. Alléluia. L'importance aussi, pour chacun d'entre nous, lorsque nous avons reçu, eh bien, de la part du Seigneur, il est vrai qu'il y a un temps pour tout, hein, il y a un temps aussi pour se former, et Paul avait besoin de ce temps aussi, mais il est important aussi que nous puissions donner la liberté et la possibilité à ceux qui ont reçu quelque chose de la part du Seigneur de pouvoir s'exprimer. C'est à nous aussi que revient cette responsabilité de donner cette liberté-là. J'aimerais lire maintenant, je ne m'attarderai pas plus sur ce point, mais j'aimerais lire avec vous maintenant le second point que nous trouvons dans Matthieu chapitre 18, le second passage où nous retrouvons cette expression dans Matthieu chapitre 18, verset 15, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc on retrouve encore cette expression, on ne la retrouve que deux fois, dans le premier texte de tout à l'heure et dans ce second, au verset 18, qui vient en articulation, ce verset 18, avec ce qui est écrit juste avant par rapport à un frère qui aurait péché et juste après le fait de pouvoir se mettre d'accord dans la prière pour demander quelque chose à notre Père. Et là, Jésus dit encore cette parole qui vient en articulation de ce dépassage, hein. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En fin de compte, lorsqu'un frère a péché, nous savons qu'il peut y avoir un blocage dans sa propre vie. Le péché bloque des situations. Il faut bien que ça soit clair. On en a un exemple avec Achan qui avait péché, qui avait pris des choses dévouées par interdites. On sait que juste avant cela, il y a eu cette prise de Jéricho remarquable, foudroyante, fulgurante, mais après, il y a eu Haï, la petite ville d'Haï, ou Haï, comme vous, si vous préférez l'appeler comme cela. Et là, cette petite ville a pu résister à l'armée d'Israël, et non seulement résister, mais la faire reculer et même faire des morts. Alors là, ils se sont posé la question. Ils se sont humiliés devant le Seigneur parce que le Seigneur leur avait dit, leur a fait vivre cette promesse que leur ennemi ne pourrait résister contre eux. Qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi un tel blocage? Le blocage venait d'un homme qui avait péché. D'un homme qui avait péché. Donc on voit que le péché peut bloquer des situations. Si ton frère a péché, déjà la personne est en danger. Et si un frère a péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tu le reprends entre toi et lui seul pour gagner ce frère, parce qu'on aime ce frère, on veut qu'il sorte de cette situation-là. On veut qu'il soit vraiment libéré de cette situation-là. Et ce que nous allons pouvoir délier, et c'est dans le but vraiment de pouvoir délier ce frère ou cette sœur, hein, des liens du péché dans lequel il s'est laissé envelopper, alors voilà, c'est dans ce but-là que nous le faisons. S'il ne t'écoute pas, eh bien, tu persévères, tu prends avec toi deux ou trois témoins, c'est toujours dans le but de sauver ce frère, c'est toujours dans le but de vraiment que ce frère délaisse son péché, qu'il prend conscience, mais à chaque fois, on voit qu'il y a un endurcissement. S'il refuse de les écouter, eh bien, tu le dis à toute l'Église, à toute l'Assemblée. Et là, chacun va pouvoir, à ce moment-là, essayer de faire prendre conscience à ce frère dans la situation dans laquelle il se trouve et essayer de l'exhorter à vraiment faire ce qu'il y a à faire, toujours dans cette pensée de sauver ce frère, dans cet état d'esprit d'amour pour ce frère. Mais il se peut qu'il s'endurcisse encore, que son cœur reste vraiment fermé. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire, la première chose, prendre des distances. Et la deuxième chose, comment faut-il voir un païen, un publicain, encore comme des personnes à sauver?
C'est toujours ça.
Encore comme des personnes à sauver, mais l'approche sera différente. L'approche sera une approche de patience, une approche de prière. Elle sera différente parce qu'on a essayé déjà tout ce qu'on a pu pour essayer de faire réfléchir ce frère, mais maintenant, c'est comme s'il n'était pas sauvé. Il faut tout faire maintenant pour essayer de le ramener à la raison. Merci Seigneur pour les brebis égarées, alléluia, qui reviennent. Et à ce moment-là, il y a des personnes qui sont déliées de leurs péchés. Après, il y a la prière. On voit l'importance de se mettre d'accord. On comprend d'ailleurs que ça va ensemble. D'ailleurs, si on continue un peu le texte, il est question du pardon. Mais c'est vrai qu'il est difficile de se mettre d'accord s'il y a le péché. On ne peut pas se mettre d'accord s'il y a le péché au milieu. Mais je vous dis encore que si deux se mettent d'accord, on a une autre clé du royaume des cieux, c'est celle de l'unité de la communion fraternelle. Se mettre d'accord sur quelque chose. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, alors ça se passe encore sur la terre, ce que vous lirez sur la terre ou ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Si deux d'entre vous sur la terre s'accordent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose dans les cieux. Elle leur sera accordée. Alléluia. On voit l'importance de se mettre d'accord. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit bien dans sa première épître, parlant du couple et des relations dans le couple, il dira qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Car si un couple est en désaccord, si un couple n'est pas uni, comment peut-il être exaucé dans ses prières puisqu'il faut se mettre d'accord pour prier? Et ce qui est valable pour le couple est valable aussi pour l'Église, est valable aussi pour des frères qui se réunissent, des frères et sœurs qui se réunissent dans la prière. Donc nous voulons vraiment réaliser l'importance de cette clé-là, l'importance de la clé de l'unité, sans quoi c'est l'ADN même de l'Église, et j'en avais parlé d'ailleurs quand nous avons parlé de l'Église. Mais si nous voulons voir des nouvelles ouvertures, si nous voulons voir vraiment une certaine liberté au milieu de nous, et je rappelle que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, mais aussi, si nous voulons le réaliser, eh bien, il nous faut être unis. Et quand il y a l'unité, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. J'aime bien ce terme ensemble. Ils étaient ensemble dans la... Là, ils étaient ensemble réunis. Mais quand on lit le chapitre 1er et les personnes qui étaient présentes, on voit que ces personnes-là, quand on lit les évangiles, les personnes présentes dans Actes chapitre 1er, avaient quelques dissensions entre eux. Ils ont dû se mettre d'accord. Et ce laps de temps entre l'ascension et la Pentecôte de 10 jours n'a pas été inutile, loin s'en faut, puisqu'ils se sont placés dans la prière, ils se sont mis d'accord pour persévérer dans la prière. Et ils étaient tous ensemble à ce moment-là, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, que son nom soit glorifié. On voit là que cette union de cœur a débloqué quelque chose, et le Seigneur a répandu sur eux le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que l'Esprit de Dieu soit répandu puissamment et abondamment au milieu de nous, afin que nous puissions être libres, vivre cette vie de l'Esprit dans la liberté de l'Esprit, que Dieu soit glorifié. Amen. Je vais arrêter là le message de ce matin. On va ensemble prier le Seigneur. Te bénissons, Seigneur, pour ces clés du royaume des cieux que tu as données à ton Église. Et nous voulons laisser notre cœur s'ouvrir par ton Saint-Esprit, par ta parole. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont ancrées en nous et nous avons besoin de changer de mentalité. Comme Pierre, nous avons besoin de changer de voir notre façon de voir les choses qui nous bloquent parfois dans ce que tu nous as mis à cœur. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions... Seigneur, entrez pleinement dans ces ouvertures pour ton peuple, Seigneur. Ô Seigneur, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ce que tu fais, pour la patience à notre égard, Seigneur. Et merci parce que parfois tu nous bouscules, tu nous mets au pied du mur, Seigneur. Tu me permets qu'il y ait des crises dans nos vies, Seigneur, pour nous faire réaliser ces choses-là, Seigneur, afin que nous rentrions pleinement dans cette liberté de l'esprit. À toi soit donc toute la gloire, Seigneur, pour ton Église. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.